C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différentes invités. Nous sommes le mardi 3 décembre et aujourd'hui nous allons parler du sida.
Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette infection est la conséquence du développement du VIH qui concerne aujourd'hui près de 200 000 personnes en France. Pour mieux comprendre cette maladie, son fonctionnement et sa prise en charge, nous serons accompagnés d'Anna Fournier, médecin au service des maladies infectieuses du CHU de Caen, de Romane Baudier, chargée de projet et de coordination pour l'association SIDAccueil Normandie, et de Céline Duparastruc, coprésidente de l'association.
Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec une nouvelle étude qui alerte sur la hausse de la pollution plastique en Méditerranée.
Les analyses menées par l'association Expédition Med révèlent une concentration record de déchets plastiques dans cette mer semi-fermée. Le taux de microparticules de plastique atteint dans certains endroits les 2 millions par kilomètre carré, un chiffre qui a doublé depuis les années 2018-2019. Et ces résultats ne représentent que les déchets présents à la surface, tandis que 70 à 80% des plastiques coulent et finissent dans les profondeurs.
Mais comment expliquer une telle concentration ?
Comme on a pu l'évoquer, la Méditerranée est une mer dite semi-fermée. Avec ses 46 000 km de littoral, elle n'est reliée à l'océan Atlantique que par le détroit de Gibraltar. Résultat, tous les déchets qui arrivent quotidiennement des 22 pays riverains s'accumulent dans ces eaux. Alors, sans réelle mesure pour limiter la production mondiale de plastique, nous serons rapidement confrontés à une catastrophe environnementale de grande envergure. Ce week-end, c'était la 38e édition du Téléthon.
Ce marathon télévisuel de 30 heures est diffusé chaque année sur les chaînes de France Télévisions. Le but, récolter des dons au profit de la recherche et de l'accompagnement des patients atteints de maladies rares. Et cette année, les dons serviront notamment à financer un traitement pour la myopathie de Duchenne. Cette pathologie affecte un garçon sur 3500 à la naissance et provoque la dégénérescence progressive de tous les muscles. Jusque-là pensée incurable, un médicament conçu récemment se révèle prometteur. L'argent récolté permettra entre autres d'en poursuivre les essais.
Et alors, quelle somme a été récoltée ?
À l'issue de la soirée en direct, c'est 79 801 520 euros de promesses de dons qui ont été reçues, dont 1,12 million en provenance de Normandie. La présidente de l'association française contre les myopathies Téléthon a salué dimanche une cagnotte, je cite, « énorme au regard du contexte ». Et ce n'est pas fini puisque les dons par téléphone restent ouverts jusqu'au vendredi 6 décembre. Il suffit de composer le numéro vert 3637. Vous pouvez également contribuer toute l'année depuis le site téléthon.fr. Des chercheurs californiens auraient trouvé une solution pour réduire les émissions de méthane des vaches.
100 kilos, c'est le total des émissions de méthane d'une vache au cours d'une année via le processus naturel de digestion. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, les vaches seraient responsables d'environ 4% du réchauffement climatique mondial. Alors le groupe de chercheurs s'est fixé un objectif, modifier génétiquement la flore intestinale de ces ruminants pour stopper leurs émissions.
Et comment comptent-ils s'y prendre ?
En modifiant des bactéries qui agiraient comme des capteurs à hydrogène administrées sous forme de pilules ou d'injections, elles pourraient empêcher la transformation de cet hydrogène en méthane. Mais pour l'heure, le succès n'est pas garanti et d'autres solutions existent déjà, comme les compléments alimentaires ou réduire notre consommation de viande. La France va développer un intercepteur pour détruire les satellites espions.
C'est un partenariat entre l'armée et la start-up française Dark. Son nom est Interceptor. Il sera capable de déloger les satellites espions et les débris spatiaux en orbite basse à moins de 2000 km de la surface terrestre. Sa particularité, il ne sera pas lancé depuis le sol mais largué depuis un avion, ceci afin de le rendre plus discret et moins sensible aux conditions météo. Une fois dans l'espace, le robot attrapera le satellite indésirable avec des bras articulés puis le déviera de son orbite. Le satellite cible se consumera dans l'atmosphère et ses restes échoueront direction le point Nemo au beau milieu du Pacifique.
Mais a-t-on vraiment besoin de ce genre de technologie ?
C'est ce que semble croire le gouvernement français. Si le traité sur l'espace de 1967 interdit la mise en place d'armes de destruction massive en orbite, ces dernières années, la paranoïa s'accentue entre les puissances mondiales. Les actions hostiles se multiplient, d'où la nécessité de ne pas rester à la traîne. Dark espère aboutir à un prototype opérationnel d'ici à 2030. Les filtres beauté ne seront bientôt plus accessibles aux adolescents sur TikTok.
C'est du moins ce qui a été annoncé lors d'un forum sur la sécurité à Dublin. D'ici la fin de l'année, les plus jeunes utilisateurs ne pourront plus ajouter virtuellement du maquillage ou déformer les traits de leur visage à l'aide de ces filtres. L'objectif, préserver leur santé mentale.
Mais comment l'usage de ces filtres va être régulé ?
Avec un dispositif qui permettrait de les catégoriser en fonction de l'âge des utilisateurs, des messages de prévention à destination des personnes plus âgées seront également mis en place. On pourra notamment lire les effets du filtre, non pas pour objectif de modifier l'opinion que vous avez de vous-même. Les responsables de l'application affirment notamment vouloir interdire toute inscription aux moins de 13 ans. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a tout juste 57 ans, le chirurgien Christian Barnard effectuait la toute première transplantation cardiaque humaine en Afrique du Sud.
C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre 1967, au Cap. Louis Vaskensky, 53 ans, a reçu le cœur de Denise Darval, 25 ans, en état de mort cérébrale à la suite d'un accident de voiture. Une première qui révolutionna le monde de la médecine. L'opération dura presque 5 heures, le temps de faire redémarrer le cœur après les dernières sutures. Quelques heures après, le patient était en pleine forme. Malheureusement, il mourut d'une pneumonie 18 jours après l'opération. Les traitements anti-rejet avaient trop affaibli ses défenses immunitaires.
Et alors, ces opérations sont-elles plus efficaces aujourd'hui ?
Depuis 57 ans, la procédure de transplantation est restée presque la même, mais les traitements anti-rejet, eux, ont grandement évolué. Chaque année en France, c'est maintenant près de 500 patients qui reçoivent une transplantation cardiaque. Parmi eux, 75% survivent plus d'un an et la moitié plus de 10 ans, d'après l'Académie nationale de médecine.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
En France, on estime à près de 11 000 le nombre de personnes ignorant être porteuses du VIH, causant un affaiblissement du système immunitaire. Ce virus est responsable du sida, une maladie infectieuse qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus mortelles. Mais concrètement, qu'est-ce que le sida ? Comment se transmet-il ? Et pourquoi la sensibilisation autour de cette infection est-elle si importante ?
Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Anne Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au service des maladies infectieuses du CHU de Caen. Avec nous, Romane Baudier, chargée de projet et de coordination pour l'association SIDAccueil Normandie. Et également Céline Duparastruc, coprésidente de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre VIH et SIDA ?
Alors, l'infection par le virus s'appelle donc le VIH. Et on peut développer la maladie qu'on va appeler SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, en moyenne sur 10 ans, après 10 ans d'évolution, après avoir été infecté par le virus, après avoir eu le rapport ou la contamination par le virus du VIH. Donc la plupart des patients aujourd'hui n'arrivent pas, heureusement, en stade SIDA, qui est le stade symptomatique qui cause, avec des infections opportunistes qui vont amener les patients à l'hôpital. Voilà la différence, elle est grande.
Et justement, vous parlez d'infections opportunistes, c'est la manière dont on définit le SIDA. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces maladies ou infections opportunistes ?
Les infections opportunistes sont très nombreuses. Ce sont les infections par des bactéries, des virus ou des champignons qui ne vont pas rendre malade quelqu'un qu'on appelle immunocompétent, qui a toutes ses défenses, mais qui va rendre malade quelqu'un qui a perdu ses défenses, soit en stade donc SIDA après un certain nombre d'années d'évolution de l'infection par le VIH, soit aujourd'hui par des traitements nouvelles d'immunothérapie ou par des chimiothérapies. En fait, les infections opportunistes ne touchent pas que les patients infectés par le VIH, mais c'est toute personne qui a perdu son immunité, qui a perdu ses défenses, ses anticorps, ses cellules de défense.
Pour, on va dire, un petit peu banaliser, nous, en scolaire, on a l'habitude de faire une petite comparaison. On explique que c'est comme si on avait une zone à protéger, notre corps, et que on a tout notre système immunitaire qui est là. C'est comme des petits soldats qui sont là pour nous protéger. Et quand on attrape le virus, le virus, c'est un petit peu comme un ninja qui arrive. Alors, pourquoi un ninja ? Parce qu'il est en mode furtif, on ne le voit pas, il n'y a pas de symptômes, et ça peut durer effectivement très longtemps. Mais pendant tout ce temps, il sape notre armée de défense. Et au bout de quelques années, donc quand on rentre en stade SIDA, on n'a plus assez de défense immunitaire et c'est pour ça qu'on va attraper n'importe quel virus, bactérie et notre corps n'aura plus la capacité de se défendre contre eux.
Et est-ce que le VIH peut causer d'autres pathologies que le sida ?
Alors, autre pathologie que le sida. Donc, il y a beaucoup d'infections opportunistes, on vient d'en parler, mais il y a aussi les cancers qui sont liés au VIH. Après un certain nombre d'années d'évolution, il peut y avoir des cancers qui sont favorisés donc, par le VIH. Et il y a aussi des anomalies au niveau cardiovasculaire, une inflammation chronique qui va s'installer avec l'infection par le VIH. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher en consultation chez nos patients qui vont bien avec l'infection par le VIH. On va essayer de dépister, est-ce qu'ils ne vont pas développer voilà, une maladie cardiovasculaire ou des complications qui ne sont pas forcément d'ordre infectieuses, mais qui sont quand même liées à leur infection par le VIH. Donc, on appelle ça des maladies métaboliques. C'est, en fait, c'est lié aussi à l'espérance de vie des patients VIH qui, heureusement, ne fait qu'augmenter et qui fait que, voilà, ils vivent aujourd'hui, donc on le sait, hein, avec la même espérance de vie qu'une personne qui n'est pas infectée, mais avec une fragilité, et ça, c'est souvent pas trop connu, mais une fragilité supplémentaire qui nécessite de la prévention de toutes parts, et c'est bien lié au virus du VIH.
Ok, et on va revenir sur le fait de vieillir, ce que c'est que de vieillir aujourd'hui avec le VIH un peu plus tard, mais plus revenir sur l'aspect très concret, comment on attrape le VIH aujourd'hui ?
Alors, pour qu'il y ait une contamination au VIH, il faut qu'il y ait un contact entre une des muqueuses du corps, donc qui sont les suivantes, la bouche, les yeux et le nez, le vagin, le gland du pénis ou la muqueuse anale, l'anus du coup, et un des liquides du corps qui peut contenir du VIH, donc qui sont les suivants, le sperme, le liquide préséminal, celui qui arrive dès l'érection, le liquide vaginal, ce qu'on appelle aussi cyprine, le sang, et il m'en manque un, le lait maternel, voilà.
Et est-ce que cette transmission du VIH, elle est systématique ?
Entre un patient infecté et quelqu'un qui est sain, elle est quasiment systématique, oui, quand il y a un contact entre cette muqueuse et ce liquide.
Il faut essayer de peut-être hiérarchiser les rapports, si ça vous intéresse. Par exemple, si on est transfusé par du sang d'un donneur contaminé par le VIH, et c'est ce qui est arrivé au tout début de l'épidémie, la transmission, elle est de 100%. Et aujourd'hui, pour les rapports sexuels, on va considérer qu'il y a 3% de risque de transmission du VIH. Par exemple, pour les virus de l'hépatite, hépatite C, c'est 30%, c'est plus infectant, pour vous donner un ordre d'idée. Et pour la transmission materno-fœtale, par exemple, c'est-à-dire de la maman enceinte au bébé qui va naître, il y a une transmission aussi qui va augmenter au fur et à mesure de la grossesse pour être maximale au moment de l'accouchement. Ce qui fait que si on dépiste les mamans en début de grossesse, il y a, vu qu'elles sont traitées, quasiment plus de risque de transmission pour leur bébé à la naissance. Mais malheureusement, si on fait le dépistage tardivement au cours de la grossesse, il va y avoir le risque pour leur bébé. Et voilà, donc il y a des degrés de contagiosité en fonction des rapports que vient de citer Romane.
Au sein même des rapports sexuels, il y a différents degrés, je pense, ouais, qu'on peut dire, de risque. Par exemple, on sait que pour un rapport buccal, donc par exemple une fellation, le risque il est moindre par rapport à un rapport vaginal ou un rapport anal.
Et vous parliez à l'instant du fait que la mère peut infecter l'enfant. Est-ce que c'est un cas qu'on voit régulièrement aujourd'hui encore en France, ou c'est suffisamment contrôlé avec les dépistages?
Heureusement, c'est suffisamment contrôlé. En France, on a beaucoup de chance avec tout ce qui est organisé comme suivi pour le suivi de grossesse, les dépistages. C'est devenu rare. Malheureusement, c'est un des modes de contamination fréquents dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Hein. On peut dire que partout dans le monde, ça s'est amélioré. Il y a des politiques qui se sont mises en place. Mais en France, aujourd'hui, c'est rare. Je suis des femmes enceintes qui ont des bébés tout à fait sains. Même si on les a dépistées, ces femmes, tardivement, on traite le bébé quand il va naître en préventif. Et voilà, la plupart échappent à ce risque et vont bien. Ça, c'est quand même un des axes de santé qui est nettement amélioré.
Nous, par exemple, on a eu le cas cette année avec une de nos familles où il y a eu une naissance. Et la maman, donc c'était un grand prématuré, a pu l'allaiter parce qu'elle était sous traitement et que donc elle pouvait l'allaiter sans risque et que le bénéfice de l'allaitement était quand même plus important que le risque de contamination.
Comment expliquer que certains porteurs du VIH contractent le sida et d'autres non ?
La roulette russe. Non, mais il n'y a pas de généralité. Effectivement, le VIH va se développer tout à fait différemment d'une personne à une autre. Je connaissais par exemple un couple qui a été infecté dans les années 80. Le premier est décédé au bout de 6 ans et le deuxième est toujours en vie. Il a été plusieurs fois en stade sida. Il a essayé tous les traitements qu'il y a eu sur le marché et aujourd'hui il a 65 ans.
C'est là aussi qu'on peut rappeler l'importance du dépistage et des traitements, parce que si on accède au dépistage, à un stade avancé, enfin pas tardif justement, du VIH, on accède plus vite au traitement et donc on a beaucoup moins de risques d'arriver au stade sida.
On va revenir sur la question du dépistage également après, mais peut-être comprendre d'abord comment se manifeste le sida concrètement dans l'organisme des personnes atteintes.
Alors, comment on devient malade et quels peuvent être les signes, c'est ça qui peut nous alerter. Alors, avant de parler du sida, on pourrait parler de la primo-infection. La primo-infection, c'est le tout début de l'infection. Quand le virus commence à attaquer le corps, il se multiplie de façon exponentielle. C'est un moment dans l'histoire de l'infection par le VIH qui peut être symptomatique. C'est-à-dire que la personne, par exemple, a été contaminée il y a 2 semaines et présente un syndrome grippal. Donc de la fièvre, des courbatures ou une angine, ça peut se manifester comme ça, une grande fatigue et ces symptômes-là peuvent alerter, si on va consulter son médecin traitant, peuvent alerter un médecin qui va faire un dépistage du VIH. Et c'est très intéressant en fait de faire ce dépistage à ce stade-là, si tôt dans la maladie, parce que c'est un moment où... Le VIH, comme je l'ai dit, se reproduit beaucoup et va altérer le corps. Et je parlais tout à l'heure de syndrome métabolique, de l'effet sur le système cardiovasculaire. Et si on arrive à traiter dès le début, on a moins de lésions de ce type-là pour toute la vie. Voilà. En étant traité très tôt, on va éviter aussi d'arriver en stade sida. Et puis, c'est le moment aussi, la primo-infection, où on est le plus contagieux. Donc, pour les autres... il y a moins de risques de transmission. Donc là, je parlais donc du tout début, quand on vient d'être contaminé. Donc on peut développer des symptômes de tout type. Hein. J'ai parlé du syndrome comme de la grippe, mais ça peut être une éruption, c'est très varié. Donc faut savoir y penser. Et après, donc il y a toute une phase où on n'est pas malade, qu'on appelle une phase chronique, où on va pas aller consulter pour ça, on se sent pas malade et c'est là l'intérêt des dépistages un peu systématiques qui sont organisés. Et après, en stade sida, comment ça va se manifester, ça dépend de l'infection opportuniste qu'on va développer. Ça peut être une infection pulmonaire, la pneumocystose par exemple, la tuberculose. Ça peut être une infection neurologique, une méningite ou une encéphalite, donc une infection du cerveau sous forme comme d'un abcès. On peut parler de la toxoplasmose. Voilà. Il y a beaucoup de maladies où ça peut être un lymphome aussi, une maladie du sang. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des infections. Ça peut être aussi sous forme de cancer que ça se développe. Et donc, les patients à ce moment-là, enfin les personnes deviennent patients parce qu'ils arrivent à l'hôpital. C'est vraiment là où on va les voir dans le service où je travaille. C'est quand ils arrivent en stade sida.
Et alors, quel est le quotidien d'une personne qui est séropositive ?
Alors, encore une fois, ça a beaucoup évolué, parce que, bon, à l'époque, les traitements étaient très très lourds, fallait les prendre à heure fixe, c'est vraiment toute la vie était organisée autour de la prise des médicaments. À l'heure actuelle, ça s'est nettement amélioré. En général, le traitement, au bout de quelques semaines, c'est plus qu'un cachet par jour, si tout va bien, voire même maintenant, on peut aussi l'avoir par forme injectable, donc là, c'est tous les 2 mois. Donc, ça fait une qualité de vie qui est, je dirais, vraiment équivalente en population générale, une fois que le traitement est bien installé.
Après, les personnes séropositives sont encore vraiment victimes de stigmatisation. Et donc, ça va plutôt être ça, en fait, qui va être problématique dans leur quotidien. Je pense que vous pouvez confirmer. Oui, oui. Moi, je trouve que tous les patients, ils ont cette crainte que l'entourage le sache. Ils ne vont pas forcément à la pharmacie de leur quartier pour prendre les médicaments. Ils se cachent pour prendre les traitements, d'où l'intérêt des injections maintenant. C'est rare, je trouve que c'est rare les personnes qui me disent que tout le monde est au courant autour d'eux et qui peuvent prendre le traitement à l'apéro du soir entre amis, quoi. Non, la plupart justement vont demander est-ce que pendant une semaine je pars en vacances avec des amis, est-ce que pendant une semaine je peux arrêter le traitement. Et il se trouve que oui, il y a des vacances thérapeutiques qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui grâce aux molécules qui sont très puissantes, qui arrivent bien à contrôler le VIH. Pour la plupart des patients, il y a des arrangements qui peuvent se faire pour alléger ce fardeau du traitement. Il y a des patients qui prennent le traitement 5 jours sur 7 pour avoir les week-ends tranquilles. Voilà, il y en a qui font une semaine de pause dans l'année et tout va bien se passer pour eux. Bien sûr, ça s'est contrôlé. Tout le monde ne peut pas bénéficier de ce type d'arrangement, mais la plupart du temps, on arrive à trouver le bon traitement qui convient selon le rythme de vie des patients.
C'est quelque chose que nous, on voit au moment où on dépiste. La crainte principale des personnes, au-delà de l'infection, c'est « mais que va penser mon entourage ? Comment je vais pouvoir le dire ? Et comment est-ce que je vais continuer à vivre en société correctement derrière ça ?»
Et on voit aussi que ça a un impact à tous les niveaux. Par exemple, pour partir en voyage, il y a encore des pays où, où on ne peut pas voyager, quand on est une personne ayant le VIH. Il y a encore également, depuis peu, il peut y avoir des soins funéraires, mais c'est très récent. Il y avait aussi des restrictions pour certains métiers. Donc c'est vraiment une maladie qui a un impact social extrêmement fort et où effectivement les gens restent cachés. Et nous, on voit bien, on essaye de faire des moments de rencontre où les personnes peuvent venir échanger, faire des activités. Et juste le fait d'être... on va dire, pendant une demi-journée, qu'avec des personnes, sans avoir besoin de se cacher, c'est extrêmement important.
Alors justement, vous commencez à l'évoquer, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup à la sphère intime, qui fait peur, qui a toujours des tabous. Comment on arrive à en parler et à la rendre visible pour pousser les gens à aller se faire dépister
Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles pour ça. Déjà, je trouve que le gouvernement s'est impliqué ces dernières années là-dedans, avec notamment des campagnes de sensibilisation. Celle de l'année dernière était très bien, ça commençait par séro, et puis il y avait quelque chose derrière, par exemple, séro polisson, séro poétique, enfin voilà. Et puis après, il faut en parler. Il faut aussi vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un sous traitement qui arrive à un stade de l'affection, on dit indétectable, est aussi intransmissible, donc il n'y a plus de risque de contamination. Ça, c'est important de le dire aussi. Et puis de continuer à aller lever tous les stigmates par rapport à ça et toutes les idées reçues, de rappeler que la salive ne transmet pas le VIH, qu'on peut aller dans les mêmes toilettes que quelqu'un qui a le VIH, manger avec lui, etc., etc., et qu'il n'y a pas de risque.
Et il y a aussi un vrai travail d'aller vers. Et nous, c'est là où nous, les associations, on intervient. Et l'aller vers, il va être aussi bien aller en milieu scolaire pour informer les plus jeunes le plus tôt possible. C'est aussi comme... on participe à beaucoup de manifestations, les festivals l'été, le carnaval étudiant. Et vraiment, nous, notre but, c'est d'aller vers un public le plus... large possible. Par exemple, on va aussi aller faire des maraudes auprès des personnes en situation de prostitution. On va aussi aller dans les ESAT et les IME, voir le public de personnes handicapées. On aimerait aussi beaucoup, mais là c'est un peu plus compliqué, il y a encore beaucoup de tabous sur la sexualité des plus de 55 ans, qui sont aussi une cible. Et c'est vraiment d'aller vers. On va aussi dans les squats, on va aussi voir les migrants à Ouistreham, par exemple. C'est vraiment d'apporter les informations aux gens, pas qu'ils aient besoin de venir les chercher, leur apporter.
Comment ça se passe concrètement, le dépistage ?
Il y a plusieurs formes de dépistage. Les associations vont pouvoir faire des TROD, des dépistages rapides, où c'est une petite piqûre au bout du doigt. On a un résultat qui est fiable à 95% en 3 minutes. et on va confirmer si c'est positif par une prise de sang plus tard, mais c'est un dépistage qui peut se faire dans la rue, qui peut se faire en festival, comme vous disiez tout de suite. Donc c'est des dépistages accessibles à tout le monde, qu'on peut faire chez soi, d'ailleurs, tout seul, dans l'intimité, qu'on peut acheter en pharmacie. Et puis après, il y a les prises de sang. Donc la prise de sang avec une infirmière qui prend un tube et il va y avoir un bilan sanguin fait dessus, des analyses, on va retrouver ou non les anticorps anti-VIH, et la présence ou non du virus. Donc ça se passe comme ça. Et tout le monde peut aller faire cette prise de sang dans un laboratoire, c'est gratuit et il n'y a pas besoin d'ordonnance. Ça c'est important de le dire, si quelqu'un qui nous écoute se pose la question du dépistage, il y a vraiment plein de lieux autour de nous où on peut aller se faire dépister, il n'y a qu'à prendre ses jambes et il n'y a pas besoin d'une autre... Notre intervention. Après, bien sûr, il faut pouvoir aller en parler. Et les associations sont là faut aller vers une structure de santé après, si c'est positif. Mais il y a beaucoup de façons de se faire dépister.
Oui, et depuis septembre, en plus du VIH, il est possible pour les 18-26 ans de se faire dépister sans ordonnance des autres IST, chlamydia, gonorrhée, les hépatites.
La syphilis. Ouais.
Syphilis. Donc, et plus besoin de passer par la case docteur. On peut y aller juste directement, c'est important aussi de le dire.
Et puis pour toutes les personnes qui n'auraient pas de carte vitale ou qui voudraient vraiment préserver leur anonymat, donc les associations, comme l'a dit Anne, mais aussi les Cégides, à Caen, il est à côté de la Miséricorde, enfin il est rattaché à la Miséricorde, donc près de Place de la Mare. Et ça, c'est des lieux ressources où il faut prendre rendez-vous, mais où on peut accéder au dépistage complet de l'ensemble des IST et donc du VIH de manière gratuite et anonyme.
Et ces dépistages, est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui le font ? Il y a de plus en plus de personnes qui ont ce réflexe d'aller se faire dépister ou c'est encore difficile aujourd'hui?
Nous, on voit qu'on a quand même beaucoup de bons retours. Par exemple, toutes les 6 semaines, on va rue Écuyère pour le jeudi étudiant. On se place devant la pharmacie d'Anjou avec notre camion. Et de 17h à minuit, on n'arrête pas de dépister et on a toujours du monde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a surtout pour la plupart des gens qui ne se sont jamais fait dépister et qui ils passent devant, ils voient qu'il y a ça va pas me prendre trop de temps, alors du coup j'y vais. Et puis l'avantage, c'est qu'en cas de négatif, on est sûr à 100%, sauf s'il y a eu une prise de risque à moins de 3 mois. Le TROD, il faut 3 mois après l'infection pour que le VIH soit révélé ou les hépatites. Et en cas de positif, nous on propose un accompagnement derrière. C'est-à-dire, on ne laisse pas la personne, vous êtes positif, débrouillez-vous. Donc, en général, c'est vers le CGI, c'est des personnes plutôt en précarité ou qui n'ont pas de papier. Et ou alors après, on a aussi un très bon partenariat avec le CHU qui reçoit tout de suite les personnes le plus rapidement possible.
Et je pense qu'effectivement, les moyens de se faire dépister étant plus nombreux, plus de monde se fait dépister. Je pense que le corps médical aussi a bien compris qu'il fallait dépister tout le monde. Donc même les médecins traitants vont proposer un dépistage pas que à des jeunes homosexuels ou toxicomanes. Enfin, il n'y a plus aussi ces idées reçues, même au niveau du corps médical. Donc je pense qu'ils proposent des dépistages à tout patient avec soit une demande de leur part, soit la présence de symptômes, comme je disais tout à l'heure, des maladies qui doivent faire penser au début de l'infection ou à un stade avancé. Donc il y a plus de dépistage fait. Ce qu'on transmet aujourd'hui comme message, c'est que tout le monde doit avoir fait un dépistage dans sa vie, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, les rapports, la vie sexuelle qu'on se décrit, on doit avoir fait un dépistage du VIH dans sa vie. Et puis, plus s'il y a évidemment prise de risque. Mais je pense que la plupart des gens ont entendu ce message et c'est ce qu'on continue à véhiculer dans les campagnes de prévention.
Est-ce qu'il y a aussi des traitements préventifs ?
Oui.
Oui, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas louper aujourd'hui. C'est, je dirais que c'est les moyens les plus récents de lutter contre l'épidémie du VIH. C'est d'éviter que les personnes qui sont en contact avec le virus ne développent l'infection. Quand je dis sont en contact, c'est-à-dire les moyens de prévention. Donc, vous connaissez tous le préservatif. Voilà, ça, c'est dès le début. Ça fait 40 ans qu'on parle du préservatif comme moyen de prévention. Pour éviter, on met une barrière physique entre les muqueuses. Depuis quelques années, se développe un traitement qu'on appelle la PrEP, qu'on peut prendre avant et après un rapport considéré comme à risque et qui va empêcher la multiplication du virus et l'installation du virus dans le corps. Donc en prenant ce traitement, qui fonctionne à plus de 99%, on va éviter d'être infecté par le VIH. On va peut-être le croiser, mais il ne va pas s'installer. Donc c'est ce qu'on appelle un moyen de prévention. Et cette fois, c'est en comprimé, un peu comme une pilule contraceptive en fait, sauf que c'est pour ne pas développer un VIH si jamais on l'a croisé. Donc la PrEP, c'est un comprimé à prendre soit tous les jours si on a plusieurs risques dans la semaine, soit un comprimé quand on sait qu'on va potentiellement prendre un risque le soir même, et un le lendemain, un le surlendemain. Donc en gros, c'est trois comprimés pour éviter d'avoir l'infection par le VIH. Ça, c'est un traitement qu'on essaye de faire connaître aux jeunes, aux personnes qui se sentent à risque. Hein. C'est vraiment en fonction des personnes, comment les gens ont l'impression de vivre leur sexualité. S'ils pensent prendre des risques, il faut bien connaître cette proposition de traitement. Et un médecin traitant ou un infectiologue comme moi peut le prescrire. C'est accessible chez tous les médecins. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Et ça se prescrit généralement tous les 3 mois avec un dépistage des autres infections sexuellement transmissibles. Parce qu'évidemment, prendre ce traitement, souvent, ça veut dire ne pas se protéger, ne pas mettre de préservatif. Et il faut dépister, du coup, régulièrement la syphilis, l'infection par la chlamydia, l'infection par le gonocoque. Voilà. Donc, on va faire des dépistages chez ces personnes. Donc, ça, c'est vraiment un moyen de prévention. Et si on a pris un risque, là, je parle du traitement post-exposition, si on a pris un risque, ou si malheureusement on a été agressé, hein, parce que nous c'est ce qu'on voit souvent arriver à l'hôpital, mais voilà, quand il y a eu une situation à risque, que ce soit par voie sexuelle ou par piqûre, hein, parce que c'est le cas aussi par exemple à l'hôpital des accidents d'exposition au sang, quand une infirmière se pique avec un patient, voilà, quand il y a un risque qui a été pris, on a 48 heures pour aller prendre un traitement post-exposition.
Nous, on appelle ça notre mallette à outils. C'est la prévention combinée, c'est-à-dire que maintenant, on n'a pas une bonne réponse pour tout le monde et que chaque prévention doit être adaptée à la personne qu'on a en face. On ne va pas parler de la même chose à une femme en situation de prostitution ou à un homme ayant des rapports sexuels avec un homme ou à un couple marié, à une personne qui va prendre des produits psychoactifs. Donc on essaye vraiment à chaque fois d'aller au plus proche des pratiques, des personnes, pour pouvoir leur proposer, on va dire, toute une gamme différente de prévention et qu'ils aient tous ces outils pour pouvoir se protéger. Par exemple, on a aussi l'exemple de la circoncision, qui est aussi un outil en plus de prévention pour les hommes. Évidemment, c'est pas très connu, mais c'est aussi une pratique qui permet de protéger les hommes dans leurs rapports. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être au plus proche des besoins des gens qui viennent nous voir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Romane Baudier, chargée de projet et de coordination pour l'association SIDA Accueil Normandie, Céline Duparastruc, coprésidente de l'association, et Anna Fournier, médecin au service des maladies infectieuses du CHU de Caen, pour parler du SIDA. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de soigner le sida, de trouver un vaccin pour le sida?
Alors, le virus, en fait, il se cache dans des cellules qu'on appelle sanctuaires. Ça va être des cellules de différents tissus du corps, mais qui sont inaccessibles, en fait, au traitement qu'on prend. C'est pour ça, par exemple, que on va être indétectable, c'est-à-dire non contagieux, sans risque d'infection opportuniste, ni de complications liées au VIH. Mais pourtant, on va prendre un traitement toute sa vie. C'est parce que si on arrête le traitement, le virus va se remultiplier parce qu'il est caché dans un... dans des cellules du corps, des cellules lymphocytaires ou d'autres cellules de l'immunité. Donc c'est ce qui fait que pour le moment, les pistes d'éradication du VIH ne sont pas passées par des traitements antirétroviraux. On n'a pas réussi à le faire. Pour la question du vaccin, il y a certaines pistes, mais il n'y a pas encore eu de vaccin concluant qui développe une immunité suffisante pour éviter la multiplication du virus. Il y a quelques pistes pour jouer avec le système immunitaire du corps humain et éviter que celui-ci n'intègre le virus, mais on est vraiment au stade de recherche fondamentale. Donc on est encore loin de pouvoir développer un vaccin ou un traitement qui éradique le virus.
Comment est-ce qu'on vieillit avec le VIH ? Alors
là, c'est une des problématiques, effectivement, qu'on n'avait pas vu venir. Il y a encore 20 ans, la question ne se posait pas trop. Et maintenant, on a une population vieillissante avec le VIH. Et pour les personnes qui auront été infectées dans les années 80-90, qui ont connu des traitements très différents, très lourds, qui ont, pour certains, connu... une ou plusieurs phases sida qui arrivent à un vieillissement prématuré. Il y a encore des problèmes aussi avec certaines maisons de retraite qui ne veulent pas prendre de patients VIH malgré qu'ils sont indétectables et donc il n'y a aucune raison. Donc on a toute cette population vieillissante et qui va continuer à vieillir, qui en général est très bien suivie. Donc du coup, dès qu'il y a un problème, il est détecté tôt et pris en charge. Il va falloir se poser la question du coup des structures, comment nous on intervient par exemple auprès des aides-soignantes en formation pour lever un petit peu les appréhensions et faire en sorte que si dans leur métier elles rencontrent des patients VIH, qu'elles ne les stigmatisent pas. Et là, tout le travail, il est là, il est sur former les gens, parce que maintenant on vieillit très bien avec le VIH.
Après, une fois de plus, on a encore la question de l'isolement qui se pose. On le disait, du coup, les personnes qui vivent avec le VIH s'isolent parfois d'elles-mêmes ou sont isolées par l'entourage. Les personnes vieillissantes sont aussi des personnes isolées. Donc là, on est face à un double isolement. Donc il faut aussi essayer d'aller un peu agir sur ces leviers-là.
Et sur un territoire comme le nôtre, où les gens peuvent être vraiment en campagne, le fait, par exemple, de vieillir et de plus pouvoir conduire, là, il y a un vrai travail d'accompagnement, comme disait Romane, de ne pas les laisser dans l'isolement et qu'ils puissent... Il y en a qui arrêtent leur traitement à cause de ça aussi, parce qu'ils ne peuvent plus se rendre facilement à leurs rendez-vous médicaux et on les perd dans la nature.
Après, la plupart quand même des patients, ils vivent bien avec le VIH. Quand ils arrivent à vieillir avec, c'est qu'ils vont bien en fait. Ils ont réussi à passer le cap d'une phase aiguë et ils ont un traitement qui va peut-être être changé pour une molécule plus récente et mieux tolérée, c'est-à-dire avec moins d'effets secondaires. Nous, en consultation, on va surveiller qu'ils ne fassent pas d'effets secondaires des traitements, qu'il n'y ait pas une incompatibilité avec un autre traitement, comme un traitement pour la tension ou un traitement pour le cholestérol. Voilà, on va vraiment surveiller l'ordonnance, comme pour tout patient, mais généralement, ils ne développent pas d'autres problématiques. Grâce au suivi médical, on les voit deux fois par an généralement, et on va pouvoir, comme tu le disais, dépister une maladie cardiovasculaire qui apparaîtrait, un diabète, un cancer, voilà, on va vraiment avoir le rôle de médecin traitant à ce moment-là et c'est, ils ont un peu un check-up complet chaque année. On va vérifier qu'ils font pas d'ostéoporose parce que les traitements antirétroviraux le favorisent. Voilà, donc c'est les patients. Tu le disais très bien, les patients qui vieillissent avec le VIH, ils sont vraiment bien suivis quand ils acceptent le suivi et qu'ils viennent en consultation. Ils sont très surveillés. Et c'est vrai que les ruptures de soins, il y en a. Généralement, quand il y en a, c'est qu'il y en a eu avant. C'est des patients qui ont un passé assez tumultueux avec plusieurs ruptures de suivi. Et voilà, tous les patients n'acceptent pas une maladie chronique, mais comme toute maladie chronique, hein, comme le diabète ou de l'épilepsie, enfin, c'est des maladies qui sont difficiles à accepter. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à aller dans une structure de soins, je disais, deux fois par an, et prendre un traitement tous les jours. Donc, la plupart vieillissent bien avec le VIH, mais il faut faire attention et il faut s'occuper de ceux pour qui c'est problématique.
Vous parliez tout à l'heure du fait que la sexualité chez les plus de 25 ans, c'est un sujet difficile à aborder. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de 50 ans et plus qui se dépistent? Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est encore nécessaire et encore important de faire attention à ça?
Alors, il y a plusieurs problématiques. Déjà, c'est la dernière génération, les plus de 55 ans, qui aura connu une jeunesse où il n'y avait pas du tout la question du VIH. Moi, j'ai 44 ans, on a été matraqués, hein. C'était vraiment, on est la génération, et on a appris très tôt à mettre le préservatif. Mais pour la génération, bah, par exemple, de mes parents, pas du tout. Et on voit qu'il y a quand même comme une deuxième adolescence. Alors ça peut être suite à un divorce, suite à un veuvage, moins de pression, les enfants sont grands, et il y a une envie peut-être aussi de faire la fête. Mais pas du tout de cette habitude d'utiliser le préservatif. Et un petit peu cette pensée de se dire, bah, de toute façon, il y a la ménopause, la question d'une grossesse non désirée ne se pose plus. Donc, les dépistages, j'en ai pas besoin. Et effectivement, c'est très tabou. Par exemple, on aurait aimé aller dans les maisons de retraite. Et là, en fait, les enfants imaginaient la sexualité de leurs parents qui ont 80 ans, ils veulent pas du tout en entendre parler. Alors que nous, on sait que ça existe, hein, que la sexualité, on commence à y penser, je sais pas, vers 12-13 ans, mais c'est jusqu'à la fin. Et même, on va dire, même les médecins vont pas forcément toujours avoir le réflexe de proposer du dépistage à des plus de 60 ans. Donc, et c'est vrai que souvent, on voit les personnes venir nous voir pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et quand on leur dit « Ouais, mais vous aussi, on peut... » Ils disent « Bah non, mais moi, c'est plus mon affaire. » Bah si, c'est encore votre affaire. Et là, on voit que c'est vraiment dans les nouveaux cas qui sont dépistés, on est à plus de... que je dise pas de bêtises...
Les plus de 55 ans représentent plus de 20% des nouvelles contaminations au VIH.
Comment, chez SIDAcueil, vous accompagnez les personnes qui sont porteuses du VIH?
Alors, on les accompagne à travers plusieurs axes. Le but, c'est de les accompagner vers et dans le soin et vers et dans le droit commun. Donc, en fait, ça va dépendre du profil de la personne qui vient nous voir. Si la personne, elle n'a, par exemple, pas de papier et très peu d'accès aux soins, notre premier travail, ça va être déjà l'accès aux soins, l'accompagner pour faire en sorte qu'elle puisse obtenir des papiers qui vont lui permettre, justement, d'avoir un accès aux soins de qualité, etc. Et puis ensuite, on va accompagner donc ces personnes-là et puis les autres personnes qui ont moins de difficultés pour ces choses de base. On va les accompagner dans la vie quotidienne. Ça peut être de l'aide financière, ça peut être lever l'isolement à travers des temps conviviaux, comme le disait Céline tout à l'heure. C'est des moments où en fait on se rassemble et où les personnes elles peuvent passer un après-midi tranquillement à travers diverses activités, pardon, sans avoir à penser à la maladie ce jour-là, sans avoir à penser aux stigmatisations, etc.
Et c'est quoi l'intérêt de sensibiliser et d'accompagner aussi les proches des personnes porteuses de VIH?
Il y a une crainte, hein, quand on dépiste quelqu'un qui a le VIH, il y a une crainte de son conjoint, sa conjointe, d'une transmission Donc, on voit le couple, hein, généralement, où on essaie de convaincre à la personne qui est en couple de faire consulter, de faire dépister son conjoint. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un moment où on sent un besoin d'être rassuré. Heureusement, comme on l'a déjà dit, en quelques semaines, sous traitement antirétroviral, les patients deviennent indétectables, et ça, on leur dit bien. Si ça fait 6 mois que vous êtes indétectable et que voilà, vous ne prenez pas d'autres risques à côté, que vous êtes en couple, par exemple, vous n'avez aucun risque de transmission. Donc, vous pouvez reprendre une vie sexuelle normale, non protégée. Donc ça, c'est quelque chose qui soulage le couple, de savoir que voilà, le conjoint ou la conjointe n'est plus contagieuse. Donc, je dirais qu'il y a cette nécessité de prendre en charge le conjoint, les enfants aussi, les enfants qui vont aussi eux être dépistés et qui vont voir leurs parents dans le soin ont besoin d'être soutenus. Et c'est génial quand il peut y avoir un entourage qui est présent autour des patients, parce que malheureusement très souvent il y a un isolement et il n'y a pas de famille à prendre en charge, et ça veut dire que le patient est seul, et c'est là tout l'intérêt des associations pour aider à vivre avec la maladie.
Oui, et puis surtout pour le public des personnes en migration, où ils ont un isolement qui est complet, la famille qui reste au pays en général n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Du coup, ils retrouvent un peu une deuxième famille auprès de nous. On voit, ils se fréquentent à l'extérieur, et ils s'entraident aussi entre eux. Donc c'est vraiment très important. Et on a aussi un rôle, si les enfants sont petits, ils vont grandir, il va falloir leur expliquer ce qu'est la maladie, et on va pas le faire de la même manière avec un enfant de 4 ans qu'avec un préado. Et nous, on est là aussi pour leur donner des outils pour pouvoir expliquer en fonction de l'âge de leurs enfants cette maladie et les risques, etc.
Et comment est-ce que le corps médical et le corps associatif, vous travaillez ensemble?
Alors c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment le sida qui a fait que les associations rentrent à l'hôpital. C'était quelque chose qui n'était pas du tout fait avant. Et là, il y a vraiment eu une volonté, aussi bien de la part des familles, des malades et des institutions, de faire en sorte d'apporter, on va dire, un travail conjoint par rapport aussi bien à toute la partie médicale, mais qu'il y ait aussi tout un travail social. Dans les années 80 et 90, les patients étaient complètement isolés. On les mettait pas avec les patients de la population générale. Ils étaient souvent dans des chambres complètement à l'écart. S'ils le disaient pas à leur famille, ils avaient pas du tout de visite. Donc c'est un petit peu comme ça que les associations ont commencé à rentrer dans l'hôpital pour apporter une aide sociale, financière, un soutien moral. Et avec les années, il y a eu des structures comme par exemple l'Écorévie qui se sont créées, où les associations et les professionnels de santé ont pu se rencontrer pour travailler ensemble. Nous, on a une expertise de terrain, et associée à l'expertise médicale, ça nous permet d'être vraiment de plus en plus compétents, et on se rend compte que avec toutes les années qui passent qu'il y a eu énormément de chemin de fait, quoi.
De manière très concrète, en fait, par exemple, quelqu'un comme Anna pourrait nous orienter des patients qui auraient besoin d'un accompagnement plus social. Et à l'inverse, nous, si on dépiste quelqu'un de positif, on va l'orienter vers le CHU, vers les structures de soins, de manière à ce qu'il y ait une prise en charge médicale.
C'est extrêmement important de favoriser cette prise en charge le plus rapidement possible après un dépistage positif fait en ville. Donc quand je dis en ville, quel que soit le lieu, fait par une association introd par exemple, ou si quelqu'un va voir une association avec un dépistage positif, il faut l'accompagner jusqu'au traitement, et ça va être très rassurant pour le patient d'être traité rapidement, parce que on annonce qu'il y a une infection aussi tabou encore hein, que le VIH, et donc la personne a hâte d'être traitée en fait. Vraiment, c'est leur souhait généralement que ça soit fait le plus vite possible. Et nous aussi, on a hâte. En fait, on essaye de raccourcir ce temps entre le dépistage et le début du traitement le plus possible pour, dans leur intérêt, pour que la maladie soit prise en charge, soit contrôlée rapidement, et aussi pour lier les patients avec le soin, pour qu'ils aient rapidement un médecin attitré, un infectiologue référent vers qui se tourner s'il y a des questions, des doutes, s'il y a des difficultés à prendre le traitement. Et on sait, moi c'était le sujet de ma thèse en fait, on sait que si on le fait le plus possible, le plus vite possible, et si il y a vraiment ce lien entre la ville et l'hôpital, les associations comme SIDA Accueil et l'hôpital ou les médecins traitants, et les infectiologues hein, qui suivent et sont spécialistes du VIH, s'il y a vraiment ce lien qui est fait, les patients suivent mieux leur traitement, suivent mieux leur consultation et vivent mieux avec le VIH en étant mieux soignés, mieux pris en charge. Donc c'est vraiment très important que finalement il y ait plusieurs personnes qui gravitent et qui puissent aider les personnes qui vivent avec le VIH, et que ces personnes soient en contact pour voilà, favoriser la prise en charge sociale, par exemple. Chaque acteur a un rôle à jouer et on est complémentaires, donc il faut, voilà, il faut pouvoir travailler ensemble et que ça soit efficace. Et moi, quand je reçois un mail d'un dépistage qui vient d'être fait, bah, on essaye de, voilà, de réagir rapidement pour que le patient soit vu en consultation. Donc il y a des échanges effectivement entre nos structures.
Et qui fonctionne très bien. Nous, un trot positif, on est sûr d'avoir un rendez-vous. Souvent, c'est dans les deux jours.
Et dimanche dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que vous avez pu mener des actions, soit conjointement, soit indépendamment, tant dans le monde associatif qu'au CHU ?
Alors pour nous, cette année, c'était une année toute particulière. Tous les ans, effectivement, on essaie de faire quelque chose dans le cadre de cette journée de lutte contre le sida. Cette année, on a pu organiser un événement entier qui a pris place à la demeurée, qui est un tiers-lieu à Saint-Comté, où on a pu organiser toute une journée qui était ouverte à tous pour sensibiliser dès le plus jeune âge justement à la cause. Donc il y avait notamment des animations comme la présence du Père Noël, des balades à poney, etc. Et puis le soir, on a ouvert sur un événement plus festif avec la présence du Camp Comedy Club et puis des DJ sets. De manière, encore une fois, à rassembler autour de la cause et non pas être que dans cette vision un peu qui fait peur du virus, etc. Et d'être sur quelque chose de beaucoup plus convivial.
Et on a pu en dépister aussi.
Bien sûr, on a fait du dépistage ce jour-là.
Et au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu une action particulière ou des attentes particulières vis-à-vis de cette journée ?
Il n'y a pas eu d'événement au sein de l'hôpital de fait. Mais on a participé à ce qui a été fait en ville pour être présent et je pense que c'est important que ça reste une journée de prévention, une journée un peu symbolique pour reposer les bases parce que les années passent, mais je pense que c'est très important de continuer cette éducation auprès de la population, de favoriser les échanges et de dédramatiser, comme tu disais, la situation, parce que on parle de choses très sérieuses hein, il y a beaucoup de mots très graves qui sont prononcés là au cours de l'émission, mais c'est vrai que on est quand même dans une ère, parce qu'en fait les plus vieux médecins ou les plus vieux associatifs parlent souvent de l'écart qu'il y a entre le début de l'épidémie, l'absence de traitement ou des traitements trop lourds, des traitements qui rendent malades, des jeunes qui meurent par dizaines dans les services. Et aujourd'hui, où fort heureusement, c'est rare qu'il y ait un décès d'un patient jeune dans un service à cause d'un stade sida. Donc il y a vraiment un gros gap et c'est important du coup d'arriver à la fois garder la population avec cette veille, cette conscience et le besoin de le réaliser, c'est-à-dire d'en avoir voilà, conscience et de se protéger, de se dépister, d'avoir ce sérieux-là quelque part, mais en même temps de ne pas craindre l'infection parce que, voilà, aujourd'hui, on le répète, il y a des traitements qui existent, qui sont simples à prendre, qui ne causent pas d'effets secondaires et qui rendent indétectables pour toute la vie. Donc c'est vraiment important de vivre avec ces évolutions et de continuer à le fêter, en fait, et que ça soit transmis.
Puis aujourd'hui, on parle quand même du VIH et donc aussi de sexualité. La santé sexuelle, c'est quelque chose d'assez global, mais la sexualité, à la base, ça doit rester du plaisir. Et ça, on trouve ça important de le rappeler aussi.
Et nous, on est super contents voilà, de pouvoir dire indétectable égale non transmissible. Ouais, c'est vraiment un des gros progrès sociétal, je pense, autour de l'épidémie des dernières années. Là, on recherche, quand les papiers sont sortis, pour dire « c'est bon, vous pouvez dire à vos patients, ils sont indétectables, ils peuvent arrêter de se protéger ou de craindre à la contagiosité ». Bon, c'était un confort de vie, quoi, vous pouvez imaginer.
Merci beaucoup Anna Fournier, Céline Duparastruc et Roman Baudier d'être venues à notre micro. On le rappelle, Anna Fournier, vous êtes médecin au service des maladies infectieuses au CHU de Caen. Roman Baudier et Céline Duparastruc, vous êtes respectivement chargées de projet et coprésidente de l'association SIDA Accueil Normandie. Bonne journée à vous.
Merci,
bonne journée.
Merci, au revoir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Ce jeudi 5 décembre, le Dôme organise un webinaire sur la place du jeu dans les recherches culturelles participatives. Au programme, l'acquisition de connaissances par le jeu, du serious game d'entreprise au jeu de rôle en passant par l'e-sport. Si vous souhaitez y assister, c'est de 10h à midi. Pensez à vous inscrire via le site web, c'est gratuit mais obligatoire pour avoir le lien de connexion.
L'association de parents d'enfants sourds du Calvados vous propose un ciné-débat autour de deux courts-métrages en langue des signes. La diffusion des films La Ménade et Monsieur Michel sera suivie d'un échange sur la santé, thème au cœur de ces deux œuvres. Rendez-vous donc vendredi 6 décembre à 18h30 au Sillon. Les réservations se font auprès de l'APES 14.
Début de semaine prochaine, une séance d'observation astronomique va être organisée par l'Université de Caen en collaboration avec l'ASNORA, Association Normande d'Astronomie. Sur place, vous pourrez explorer le ciel grâce à du matériel mis à votre disposition et profiter des conseils et explications des passionnés d'ASNORA. Ce sera à partir de 18h30 sur le campus 2. Pour l'instant, la date n'est pas encore fixée à cause des conditions météo, mais ce sera entre le 9 et le 12 décembre. Restez à l'affût. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emile, à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.